C'est toujours Nelsie Sandibé qui nous accompagne dans notre conversation avec Marie-Noëlle Anderson sur ce qu'est être femme aujourd'hui en Afrique du Sud. Marie-Noëlle, quand vous vous êtes allée en Afrique du Sud dernièrement, en novembre dernier, donc les gens étaient en train de se préparer à ces élections, parce que ça se prépare de nombreux mois à l'avance chez eux. C'est pas comme chez nous, tout à coup, un jour à l'avance, on se dit « Ah, mon Dieu, faut pas que j'oublie d'aller voter ». Dans la rue, comme ça, les gens que vous avez rencontrés, tout le monde parlait de ça, tout le monde s'interrogeait, c'était une chose qui vraiment était présente partout.
Oui, absolument. Il y avait une effervescence absolument folle, et une intensité dans tout ce qui se passait. Tout le monde était occupé, je veux dire, à tous les niveaux, notamment, forcément les gens qui étaient... en train d'établir les stratégies dans les différents domaines. Et je pense que c'est une chose... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays dans l'histoire qui ont eu cette occasion-là où, à un moment donné, tout peut être réécrit. Donc, ce n'est pas que la santé ou que les assurances sociales ou je ne sais pas quoi, mais tout, en un moment donné, peut être réécrit et réélaboré différemment. Bon, on sait qu'il y a des contraintes économiques, mais c'est quand même un moment extraordinaire pour ça. Donc, dans tous les domaines, les gens étaient occupés soit directement à préparer tout ça, soit à s'informer, se documenter, essayer de se faire une opinion. Alors forcément, là, on trouve de tout. Je veux dire, on trouve la peur aussi, notamment chez les Blancs, évidemment. On trouve aussi la peur relativement chez certaines populations du Cap, métis, etc. Et de façon générale, je dois dire qu'il y avait une atmosphère de confiance et d'espoir et de sagesse, il faut bien dire, absolument incroyable. Et j'ai été frappée par le bon sens des gens, parce que franchement, à leur place, on serait plutôt à se dire bon, ben maintenant, après tout ce qu'on a souffert, vite, il faut que ça nous tombe tout cuit, il faut qu'on puisse enfin prendre notre revanche, enfin quelque chose du genre. Et les gens disaient: on sait que ça va durer encore un certain temps, on sait que le chemin va être encore loin, mais ce qui compte pour nous, c'est qu'on ne peut plus retourner en arrière et que maintenant les choses avec les votations changent vraiment. Et c'est cette espèce de conviction et de confiance aussi qui leur donne cette sagesse et cette capacité, disons, oublier, on n'oublie pas, ça c'est évident. Mais enfin, de dire, bon, maintenant on tourne la page et puis on se met dans une dynamique de construction, de recréer tout ce qui nous a manqué pour que la société puisse fonctionner à tous les niveaux.
Vous parliez d'une sorte de réticence que, par exemple, une femme noire avait à votre égard quand vous posiez une question sur qu'est-ce qu'elle allait voter. Comment ça se passe aujourd'hui, les rapports entre blancs et noirs, blancs qui ont envie que ça change? Parce que, bon, on peut imaginer dans quel retranchement se placent les blancs qui imaginent pouvoir récupérer la moitié de la superficie de l'Afrique du Sud pour y vivre tout seul, puisque c'était l'idée qui se cache derrière le fameux Volksstaat, c'est ça,
oui,
défendu par les nationalistes.
On ne va pas trop s'attarder là-dessus.
Non.
Parce que...
Mais par contre, il serait plus intéressant de savoir comment se passent les rapports justement de ces Blancs qui ont envie de reconstruire aussi une nouvelle Afrique du Sud et peut-être des gens, des femmes que vous avez rencontrées au cours de votre voyage.
Oui, je veux dire que, bon, soyons clairs, il y a dans cette tranche de gens, il y a différentes provenances, différentes motivations. Il y a, faut quand même dire les choses comme elles sont, il y a des gens qui se disent, bon, on est bien obligé d'aller avec le courant, tant bien que mal, donc forçons-nous un peu, disons, où c'est pas forcément quelque chose qui vient du cœur, qui vient vraiment des tripes, mais où c'est une espèce de mélange à désespoir et opportunisme, je dirais, un petit peu. Y a ça, mais il y a aussi quand même pas mal de gens qui se sont inscrits à l'ANC, qui ont, donc de blancs, qui ont voté ANC et qui sont complètement engagés. Vous avez peut-être vu, notamment avec les Peace Monitors, par exemple, cette organisation de bénévoles, pour la plupart, qui allait dans les townships pour assurer la tranquillité quand il y avait des manifestations, des cortèges, une cata ANC, qui étaient donc là pour garantir une certaine paix, un certain ordre, pour pas que ça dégénère en violence. Et il y avait beaucoup de femmes blanches là aussi, qui allaient dans les townships, alors que c'est une chose inimaginable. Je veux dire, il y a pas beaucoup d'années en arrière, les blancs en général n'allaient jamais dans un township, les femmes encore moins.
Et on peut imaginer que, bon, parlons des femmes, celles qui ont envie de construire quelque chose pour l'Afrique du Sud de demain, elles doivent aussi être dans une situation particulière qui est de se dire je ne dois pas jouer à la maternaliste, pour ne pas dire paternaliste, mais enfin, de se trouver dans cette situation de celle qui est mieux éduquée, qui a eu la chance d'avoir une éducation meilleure, donc qui appréhende mieux les choses, mais qui, malgré tout, faut respecter le mouvement.
Oui, tout à fait. Je crois que ça va demander pas mal de lâcher prise, de toute façon, parce que j'ai entendu plusieurs fois aussi des remarques du genre quand je me demandais, tiens, est-ce que un jour je vais peut-être retourner en Afrique du Sud pour y vivre. Et on m'a dit, ah tiens, vous autres là, des gens comme toi, vous voulez venir prendre nos jobs. C'est des choses, je veux dire, c'est des réactions normales. On peut franchement vraiment en vouloir à personne. Donc je crois que il faut y aller au plus près de son cœur et faire ce qu'on a à faire, ce qu'on peut faire, mais à l'écoute des autres, donc pas prétendre apporter Dieu sait quoi. Je crois qu'on a de toute façon à apprendre et à faire avec les gens d'une façon complètement collective, que ce soit blanc, noir, rouge, jaune, peu importe. Et en Afrique du Sud aussi.
Très concrètement, l'ANC avait fait un choix à l'intention des femmes, un choix politique à l'égard des femmes. Le Congrès avait décidé qu'il y aurait au moins un tiers de femmes dans les différents parlements nationaux, provinciaux et locaux. Alors, est-ce que ça va être tenu? Est-ce que c'est vraiment une chose dans laquelle les femmes sud-africaines peuvent avoir confiance?
Écoutez, je l'espère que ça va être tenu, parce qu'un tiers, ce serait quand même la moindre des choses. Bon, il faudra voir maintenant les différentes promesses, les différents projets, qu'est-ce que ça va donner. On n'en sait rien. Tout ce qu'on peut dire, c'est que dans la Women's League, donc le département des femmes de l'ANC, il y a des personnalités extrêmement puissantes et qui vont pas se laisser avoir. Donc c'est là aussi qu'on revient à cette tradition de la résistance. C'est une culture de la résistance et les gens ont ça dans les veines. Donc si les promesses ne sont pas maintenues, s'il y a du laxisme, etc., ça va pas faire long feu. On va reprendre à résister, à dire ce qu'on a à dire.
Et cette fois-ci, ce sera plus dur parce que ce sera plus aussi simple de dire le blanc c'est le méchant cette fois-ci.
Voilà.
Il va falloir construire et régler des questions d'importance entre noirs. Là. C'est un sacré enjeu à relever, évidemment.
Oui.
Défi à relever.
Oui, tout à fait. Mais c'est bien de savoir qu'il y a un garde-fou puissant. Donc, je veux dire, le gouvernement est là. Il a un énorme travail à fournir. Ça, c'est évident. C'est une tâche gigantesque. Il a aussi pas mal de moyens, autant que ce soit au niveau des gens remarquables qui sont dans l'ANC, qu'au niveau de moyens financiers, etc. L'argent est là, donc il s'agira de le redistribuer autrement. Mais c'est évident qu'entre les syndicats, les mouvements de femmes, il y a quand même pas mal de garde-fous qui sont là pour dire il n'est pas question de retourner dans les histoires de pouvoir, d'abus de pouvoir, de trafic bizarre comme avant. Donc nous, on est là et on surveille.
Espérons, parce qu'on sait très bien qu'hélas, il y a eu d'autres antécédents qui ne ressemblent pas à l'histoire de l'Afrique du Sud, mais où les femmes ayant participé beaucoup à des luttes de libération, par exemple, reçu plein de promesses et se sont retrouvées dans leur cuisine et sous leur voile, n'est-ce pas?
Oui.
Espérons que l'Afrique du Sud ne vive pas ces événements-là. Alors, les femmes qui aujourd'hui se préparent à reconstruire ou à construire la nouvelle Afrique du Sud, à votre avis, elles auront des rôles importants où, surtout?
Mais je pense que, bon, au niveau des structures gouvernementales, oui. Mais je crois que le plus important, ce sera ce qui va se faire parallèlement, disons, hors gouvernement officiel, disons. Hein. Bon, on peut donner peut-être l'exemple de la Women's Development Bank que je trouve très intéressant.
Donc, la banque pour le développement
des
femmes. Pour le développement des femmes, oui.
Voilà. Bon, évidemment que c'est politiquement lié parce qu'il se trouve que la présidente initiatrice de cette banque est Zanele Mbeki, donc la femme de Thabo Mbeki. Mais cette banque a pour but de créer l'autonomie pour les femmes, c'est-à-dire qu'elle donne des micro-prêts, c'est toute la pratique, la stratégie des micro-prêts pour les femmes. Donc les femmes dans les zones rurales, pour le moment, c'est quelque chose de tout récent quoi, qui a commencé ce projet. Et les femmes dans les milieux ruraux commencent par recevoir celles qu'ils désirent, donc un prêt allant jusqu'à 100 rand, par exemple, 50 francs. On peut avoir des tout petits prêts. Et les banques officielles, jamais, ne font ce genre de démarche, évidemment. Mais ça leur permet de commencer à acheter quelques légumes, quelques fruits à vendre, et commencer de très bas de l'échelle, et petit à petit, pouvoir devenir autonome. Et la démarche aussi de cette Women's Development Bank est de créer des cellules de 5 femmes donc qui sont solidaires entre elles pour les remboursements. Donc ça crée une espèce de cohésion, d'entraide. S'il y en a une à un moment donné qui a un peu de peine, l'autre va lui aider. Et ça marche incroyablement, extrêmement bien, justement au niveau de strictement financier, économiquement. Et en plus, ça donne à ces femmes la fierté d'être autonome, de ne pas devoir s'exiler en ville, mais de pouvoir rester, faire ce qu'elles ont à faire dans les zones rurales et fonctionner et petit à petit faire partie de cette société sud-africaine, de l'économie, être partie intégrante de l'économie sud-africaine.
Et contrairement à toutes les banques, il y en a certainement beaucoup en Afrique du Sud, on a décidé de faire confiance en particulier aux femmes les plus pauvres, paradoxalement.
Exactement. Et c'est un succès formidable. Ça ne nous surprend pas, nous femmes. C'est magnifique quand même de pouvoir montrer sur des bases pratiques à quel point ça fonctionne bien. Et cette démarche encore, un autre aspect, c'est que ces femmes de la Women's Development Bank qui vont dans les zones rurales, etc., se rendent aussi compte des problèmes à d'autres niveaux. Par exemple, de santé des femmes, d'infrastructures, de maisons, d'eau, des choses toutes simples. Elles peuvent ensuite, à leur tour, donner des indications à ces femmes sur d'autres organisations avec qui elles pourraient travailler dans d'autres domaines. Donc, en même temps, elles servent un peu de relais. Et ça donne de nouveau une espèce de réseau qui est en train de se faire et qui est extrêmement efficace. Et je pense que c'est dans ce genre d'activité parallèle, disons, que les femmes vont être les plus efficaces.
Vous-même, Marie-Noëlle, vous travaillez, je crois, dans le secteur de la médecine douce. C'est une chose très importante aussi en Afrique du Sud, la médecine traditionnelle, le rôle du guérisseur. Est-ce qu'il y a des guérisseuses aussi en Afrique du Sud?
Bien sûr. Bien sûr qu'il y en a. Il y en a beaucoup, d'ailleurs. Et on voit aussi que là, il y a une très grande partie des gens qui vont d'abord spontanément chez le guérisseur ou la guérisseuse, avant d'aller chez le médecin occidental. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que récemment aussi, toutes sortes de projets ont abouti où les frais de ces guérisseurs et guérisseuses vont être pris en charge par la santé publique, si on veut. Et c'est très intéressant parce que forcément, c'était des prix absolument trop élevé pour ces salaires sud-africains moyens. Et les gens vont pouvoir se rendre donc beaucoup plus librement, utiliser la médecine traditionnelle à laquelle ils avaient été habitués dans le temps, quoi. Donc retourner aussi aux sources à ce niveau-là. Et ce qu'il y a aussi, c'est que, bon, évidemment, les guérisseurs, guérisseuses seront structurées, elles appartiennent, il y a déjà des associations, il y en a une dont je fais partie d'ailleurs, pour qu'il y ait quand même un certain contrôle. Donc ça va donner quelque chose de très structuré et de très efficace. Et il y a notamment eu aussi toute une démarche avec les milieux industriels où on a essayé de trouver une solution par rapport aux défaillances de la santé publique officielle où les industries vont prendre en charge une partie des frais. Et où on a vu que par rapport à cette habitude de consulter les médecins traditionnels, on a demander à des gens, des médecins traditionnels, des présidents d'organisations de médecine, de guérisseurs, de venir participer. Donc, c'est plus une tradition qui est reléguée dans l'ombre, dans les choses bizarres, mais elle est bien là. Donc, finalement, au niveau de la médecine, dans ce sens-là, l'Afrique du Sud est bien à l'avant-garde par rapport à ce qui se passe chez nous.
Donc, pour un certain nombre de choses, l'Afrique du Sud risque d'être en quelque sorte un modèle pour le restant du continent dans sa construction nouvelle ?
Écoutez, c'est ce que j'espère, mais profondément, du plus profond de mon cœur, étant donné qu'il y a cette force, il y a cette richesse, il y a tellement d'atouts en Afrique du Sud, et je pense qu'en établissant, en vivant, en construisant un autre équilibre, ça pourra faire vraiment un exemple, c'est pas une question de servir d'exemple, mais enfin, ça pourra se propager dans l'Afrique entière et peut-être plus loin aussi.
Parce que vous avez donc confiance qu'on va tenter de mettre sur pied des choses qui sont pas simplement la copie d'autres États, mais qu'à partir du moment où on sait qu'on doit tout reconstruire,
ce serait quand même idiot de rater le coche. C'est une occasion absolument à pas louper. Et le fait que des délégations de l'ANC et même aussi de la droite ont été ensemble, d'ailleurs, dans plusieurs pays européens et autres, pour voir ce qui se faisait, ce qui s'était pratiqué pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Eux aussi, on se sont éduqués à cette Afrique du Sud nouvelle, plus ajouter les traditions, ce qu'on peut utiliser aujourd'hui dans notre société, des traditions africaines. Donc, c'est un plus avec toute cette mosaïque, disons. Je pense que ça peut faire vraiment, il y a tout le potentiel pour que ce soit un système nouveau, différent, avec le meilleur de différentes cultures. Et c'est ça qu'il faut viser.
Alors, pour terminer, nous allons écouter une très belle chanson qui s'appelle « L'appel pour la paix ». Un des slogans de l'ANC pendant les élections, c'était « Des emplois, la paix, la liberté ». On va achever cette émission sur cette très belle chanson qui nous est proposée par qui, Marie-Noël ?
Par les Elite Swingsters, sauf erreur, c'est ça ?
Voilà.
Dolly Rathebe, qui est la chanteuse de ce groupe typiquement sud-africain.
Of mind. Peace is calmness. Peace is harmony. Peace is freedom from war and suffering. Zohang, ma Afrika, Zohang.
Marie-Noëlle, juste en conclusion de cette émission, vous disiez tout à l'heure, il y a des gens qui me demandaient si je reviendrais un jour vivre en Afrique du Sud. Est-ce que vous y rêvez, effectivement?
Oui, j'y rêve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'espère que ce sera possible un jour.
Qu'est-ce qui vous attire particulièrement à l'idée de retourner?
Écoutez, c'est une intensité de vie, je crois, de beauté, et d'authenticité qui m'attire spécialement. Et, bon, l'impression de vraiment pouvoir faire quelque chose d'utile.
Et nous, on va enfin pouvoir laisser tomber nos gestes de boycotteurs et de boycotteuses. Et je crois qu'il y en a plus d'une d'entre nous qui s'est autorisée à acheter enfin le produit, la pomme verte auquel elle renonçait depuis 10 ans.
Le vin du Cap, en ce qui me concerne.
Et je crois que c'était vraiment un geste de fête de se dire à partir d'aujourd'hui, je boycotte plus, je soutiens.
Et voilà, et je crois que c'est vraiment important pour nous d'être dans une dynamique de confiance. On leur fait confiance, on fait confiance à l'Afrique du Sud et on est à l'écoute de l'Afrique du Sud et on arrête nos histoires d'imposer justement les clés du paradis et les solutions toutes faites. Et surtout d'être dans une attitude positive et de confiance et d'espoir.
Merci beaucoup Marie-Noëlle Anderson d'être venue passer ce long moment avec nous. C'était un très grand plaisir.
Merci à vous, j'ai eu beaucoup de plaisir.
A call for peace, a call for peace, a call for peace.
Voilà, l'appel de la paix, c'était encore une dernière chanson que nous vous proposions aujourd'hui dans le cadre de Remue Ménage. Nous allons finir en musique avec cette magnifique chanteuse, Dolly Rathebe, et d'un grand groupe de jazz, un de ces groupes anciens. C'est une femme d'un certain âge qui est magnifique. Si vous voyez sa photo, elle trône là dans ses magnifiques habits sud-africains. Et nous allons finir en musique et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour Remue Ménage à 17h en direct dans nos studios de Ferney. Mais si vous intervenez tout juste maintenant dans notre émission et que vous avez manqué notre conversation, vous pouvez nous retrouver ce soir à 23h mercredi et demain jeudi à 11h sur 93.8 Radio Zone. Et nous ne finirons pas cette émission sans quand même une petite chanson avec Myriam Makeba. Et à la semaine prochaine.
Mama,